Thierry Petit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur et co-CEO de showroomprivé.com. On va parler avec vous de vos activités. Vous avez publié récemment un certain nombre d'éléments qui ont intéressé les investisseurs. Si on revient sur cette année 2020 pour vous, qu'est-ce que vous retenez dans votre secteur sur ce qui s'est passé avec bien sûr la crise sanitaire et les opportunités pour le e-commerce?
Cette année est particulière, effectivement, mais nous, elle est doublement particulière. Déjà parce qu'elle c'est l'année où on a tiré tous les fruits de notre plan de performance qui avait été initié en 2018 suite à effectivement cette crise de croissance que l'on avait connue, où on a voulu effectivement faire un plan très précis pour revenir à la rentabilité. Et là, nous avons été dans l'année où, quelque part, tous les chantiers qui ont commencé en 2018 on se sont terminés, donc c'est un premier point. Donc on a de nouveau une organisation commerciale, une nouvelle équipe financière, une équipe opération renouvelée avec des meilleurs contrôles de coûts, avec également de nouvelles marques qui nous ont rejoints. Donc ça, c'est tout un premier point qui est assez fort pour nous, assez structurant pour notre histoire. Et puis un deuxième axe qui est bien sûr le Covid et les confinements, le confinement qui a eu un effet oui, accélérateur sur la consommation en ligne des Français, hein. On voit dans les principales études que l'e-commerce a gagné à peu près 4 années de pénétration. Donc forcément, ça a contribué aussi à la bonne santé financière de cette année. Mais c'est vraiment la conjonction des deux qui nous amène à réaliser une très belle année 2020.
Oui, parce que quand on regarde, et pour les investisseurs qui vous suivent, on se rappelle que 2019, ça n'avait pas été facile pour vous. Vous aviez été obligé de faire un certain nombre d'arbitrages, hein, sur certains marchés. Vous aviez fait une augmentation de capital importante. Et puis, quand on suit le showroom privé depuis l'introduction en bourse, bah, finalement, les cofondateurs sont revenus aux manettes. Donc, il a fallu revoir un certain nombre de choses. Aujourd'hui, vous estimez que ce que vous avez, l'analyse que vous aviez faite avant même cette crise du Covid, finalement, elle vous conforte dans vos choix stratégiques?
Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, 2, 3 ans après notre IPO, on a été toujours dans cette course un peu de croissance effrénée, alors qui a été utile parce qu'il fallait prendre une place forte sur le marché de la vente événementielle. Parce que si vous voulez travailler avec des grands groupes, il vous faut une taille critique, il faut être capable d'écouler beaucoup d'invendus en peu de temps. Donc ça, c'était important. Et pour ça, on a ouvert des pays, des catégories, on a accéléré le développement de la notoriété de notre marque, on a construit une organisation logistique forte. On a fait des acquisitions pendant toutes ces années. Et puis, effectivement, avec quelques erreurs sur le chemin, sur ce chemin de croissance, certains pays qui ne fonctionnaient pas, une organisation qui était un peu défaillante en termes de suivi financier et de pilotage fin de notre activité dans cette crise de croissance. Et puis, une équipe qu'on a dû changer, principalement à la finance et aux opérations, pour la rendre pragmatique, plus près des préoccupations. Et puis, on voulait vraiment revenir dans une croissance rentable, une croissance qui a du sens, une croissance qui génère du cash, une croissance qui permet du coup d'investir pour les années futures. L'année 2019 a été un point de pivot dans ce plan de performance, puisque c'est cette année où on a changé une partie de notre comité exécutif. C'est cette année où on a fait des choix forts en termes logistiques. Cette année, on a fermé des pays. C'est cette année, on a décidé de couper certains types de ventes qui n'étaient plus rentables. Donc forcément, l'année 2019 a été très impactée par tous ces changements, plus une dépréciation d'un certain nombre de stocks fermes qui avaient été achetés dans cette phase de croissance plus forte. Donc oui, ça nous donne raison. On était d'ailleurs revenu aux manettes début 2019 avec l'envie, bien sûr, de remettre la société dans l'énergie qu'elle a toujours connue, à savoir une société qui avance, qui grandit, mais qui est rentable, qui génère du cash. Et ça nous a demandé, on a eu tendance pendant ces années à plus grossir que grandir. Voilà, il nous a fallu un an et demi qui ont été bien sûr difficiles pour les investisseurs parce que la conséquence, c'est que le cours a dévissé, mais on pense avoir fait les bons choix et on pense surtout que ces choix sont maintenant tenables dans le temps.
C'est ce qu'on appelle, enfin, traditionnellement, une crise de croissance, c'est-à-dire vous étiez dans l'hypercroissance avant cet arrêt brutal, on va dire. Et il faut savoir gérer ça. Quand vous regardez aussi les aspects sur le e-commerce, on parle beaucoup de cette logistique qui est la clé finalement, gestion de stock et logistique. De ce côté-là, vous avez amélioré clairement les choses?
Oui, on a amélioré. Alors, ça a passé déjà par une refonte de nos équipes. On a recruté quelqu'un qui s'appelle Hakim Ben Maklouf, qui nous vient d'Amazon, donc qui a à la fois une vision très terrain de ce métier, mais en même temps qui sait se projeter dans des plans à 2, 3 ans pour bien orienter l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre métier change beaucoup. Auparavant, on vendait que du prêt-à-porter en vente ferme. Là, on vend tout type de produits avec plein de types de ventes, dropship où la marque va livrer directement, de la conditionnelle, des ventes fermes. Donc, effectivement, logistiquement, par contre, ça a de grands impacts. Hein. Alors, il faut savoir aussi qu'un plan logistique, vous le travaillez à 2-3 ans. Donc, comme vous faites des mauvais choix d'entrepôt, de géolocalisation de votre entrepôt par rapport au pays, de typologie, si vous dites, bah, moi, je veux faire plus de prêt-à-porter, je vais mécaniser donc, et puis finalement, vous apercevez que vous faites plus d'encombrants, d'objets de la maison, donc ce n'est pas les mêmes technologies. Donc, c'est un sujet qui est complexe, effectivement, qui est clé, à la fois dans la scalabilité pour pouvoir grandir, à la fois dans la qualité de service que vous livrez à votre client, et en même temps, bien sûr, bah, dans votre bas de PNL, hein, parce que c'est le principal poste de coût. Et on a vu tendance à effectivement, on n'avait pas bien anticipé les besoins, notamment la montée du dropship. Le dropship, ça fait 20% de chiffre d'affaires chez nous. C'est quelque chose de très intéressant parce que finalement, on fait la vente sans porter le stock et effectivement, c'est la marque qui livre, donc avec une vitesse plus forte de livraison pour le client.
Expliquez-nous ce que ça veut dire le dropship.
Ouais, c'est ça. Bah voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer.
Hein?
Nous, on a globalement trois types de ventes. La vente ferme, on achète les stocks, on prend le risque d'achat de stock, le stock est chez nous, on livre le client. L'intérêt des ventes fermes, c'est que vous livrez rapidement. L'inconvénient, c'est que bah, vous prenez un risque sur le stock. Le deuxième type de vente, c'est ce qu'on appelle la vente conditionnelle. Donc, vous allez faire la vente chez showroom privé sans porter le stock, sans l'acheter. Et puis, vous allez, à la fin de votre vente, passer commande à la marque qui vous livre et vous livrez votre client. Vous livrez votre client. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas de problème d'inventaire, puisque vous allez avoir accès à tout l'inventaire de votre marque, mais et pas de problème de cash, puisque du coup, c'est vous encaissez l'argent avant de payer, finalement, au partenaire, mais vous allez avoir des délais de livraison plus longs. Le dropship, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que du coup, vous allez faire la vente sans porter les stocks, comme une conditionnelle, sauf que c'est la marque qui va livrer. Donc, vous allez gagner une dizaine de jours de livraison. Donc, vous allez combiner un petit peu le meilleur de l'achat ferme sur la qualité de service et le meilleur de la vente conditionnelle sur accès à un inventaire très large et pas de prise de risque financière. Et ça a été pour nous un enjeu très fort. Mais le dropship, forcément, ben, vous demande d'utiliser moins vos propres infrastructures logistiques. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, un plan logistique, bah, c'est dans la durée et parfois bah, vous avez des développements qui font que vous êtes obligé de modifier ce plan. C'est ce qui s'est passé en 2019, hein, puisqu'on a par ailleurs aussi développé notre nouveau dépôt qui est Astrolabe, qui permet de réduire d'un euro à peu près la commande. Il a été lancé en plein Covid et puis là, on a fait une année superbe avec cet entrepôt. Donc voilà, on a plein de projets. C'est encore une fois, les projets, c'est jamais sur la logistique, c'est bien le point clé et critique, c'est que ce n'est pas des choses qui mettent 6 mois. Astrolab, ça nous a mis 3 ans. Donc, bah, pendant 2 ans, on a investi sans produire de commandes. Là, cette année, bah, on a eu tous les fruits de cet investissement en produisant des commandes à un coût très, très intéressant. Voilà.
Alors, l'ADN, hein, on l'a rappelé, de showroom privé, c'était la mode, ça reste la mode, bien sûr, mais les marques. Est-ce que justement, avec peut-être cette accélération liée à cette crise sanitaire, vous vous positionner de plus en plus finalement ce qu'on appelle les marketplaces, hein. Alors, effectivement, qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire être capable de vendre à la fois, bien sûr, ce qui ressort de votre ADN, votre spécialité, mais d'élargir finalement ce que vous allez vendre en ligne.
Alors nous, notre ADN, plus qu'à de la mode, c'est finalement, nous, notre mission, c'est de s'adresser à la digital woman, donc qui est cette femme active qui contrôle le budget de la famille et qui aime la mode et qui a des besoins pour l'ensemble de sa maison et de sa famille. Donc ça, on s'adresse à elle. Pour assurer une bonne qualité de service, ben, on cherche à lui adresser les marques qu'elle recherche, qui sont à la fois des marques très connues et en même temps des marques créateurs, et puis de diversifier les catégories. Donc, évidemment, la mode étant un des points clés de ses besoins, on a à peu près la moitié de l'activité sur la mode, hein, mode étant considérée comme prêt-à-porter, chaussures, accessoires de mode, lingerie, etc. Et puis, on a ouvert au fil du temps différentes verticales, l'univers de la maison, l'univers de la beauté, pour ne citer qu'elle. Alors, ce que l'on voit effectivement, c'est que les mix ont un peu changé. L'année 2020, par exemple, a été très importante pour l'univers de la maison. Bah, parce que les gens étaient chez eux, parce qu'ils ont eu des besoins, parce que probablement il y a plus de maturité aussi sur ces produits. Donc, ça, c'est un point qui est assez intéressant. Mais nous, on reste convaincus qu'on doit s'adresser à cette femme et répondre à ses besoins. Donc ensuite, vous parlez de marketplace. Nous, notre métier originel consiste à vendre des invendus. Donc, c'est des fins de saison des marques. On va vendre à un prix décoté à notre client. On va également prochainement proposer avec la marketplace, des produits plus de saison, avec bien sûr un ADN de prix, parce que c'est notre raison d'être, avec une faible réduction, mais des produits que vous pourrez trouver dans les catalogues, et ceux aussi pour accompagner et aider nos marques à leur offrir un service supplémentaire, puisque finalement la marketplace nous permettra d'avoir accès au temps réel des marques et d'offrir à notre consommatrice un moyen d'accéder à ces collections.
Le mot de la fin concernant effectivement, on parlait de à la fois la crise, à la fois la bonne année 2020 que vous venez de passer. Pour les actionnaires qui vous suivent, effectivement, si on a des Amazon qui sont très très hauts ou d'autres acteurs du e-commerce qui sont très très hauts, bon, le chemin est encore long, le chemin boursier hein, pour vous est encore long. De votre point de vue, qu'est-ce qui peut changer la donne? C'est effectivement ces sujets de rentabilité.
Il y a plusieurs sujets. Moi, je crois qu'on a fait un très, très gros travail sur le plan de performance, sur un retour à la rentabilité avec des coûts qui sont extrêmement maîtrisés, un point de rentabilité beaucoup plus bas, une direction financière grâce à l'arrivée de François de Castelnau, qui est l'ancien CFO de Jiffy, très percutante et très dans le détail. Donc, je pense que les petits soucis qu'on a eu dans le passé sont réglés. Et donc, on a vraiment une structure qui est rentable et quand elle génère beaucoup d'activités, qui est très rentable, qui génère du cash. Donc, ça, c'est un point intéressant. Ensuite, quand on regarde le marché, finalement, les marques ont des stocks, elles ont besoin de solutions pour écouler ces stocks. Les consommateurs sont à la recherche de prix, encore probablement plus maintenant. Et par ailleurs, les consommateurs aiment les marques. Donc finalement, on peut considérer qu'on est un peu à la croisée des chemins et que le momentum offert par le Covid, pour nous, il est tenable dans le temps. C'est-à-dire que du coup, tous ces nouveaux consommateurs ou les consommateurs qui ont pu accélérer leur consommation en ligne, ce n'est pas quelque chose qui va partir du jour au lendemain. Donc, on considère qu'on est effectivement dans un momentum moyen terme extrêmement positif, et ce, pour l'activité, et donc par ricochet pour la valeur de l'entreprise.
Merci beaucoup Thierry Petit d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le co-CEO et cofondateur de showroomprivé.com.
Merci beaucoup Didier.
Alors, toc, toc.